pas. Mais dans le christianisme, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, si je vous parle, à vous tous là, et si j'ai envie de vous parler, c'est parce que j'en connais quelques-uns. Je ne peux pas vous connaître tous, vous n'êtes pas tous de la paroisse où je suis le prêtre. Mais si je ne connaissais pas quelques-uns, j'aurais pas envie de vous parler. Moi, je suis curieux de vous rencontrer, et si je vous parle, c'est parce que je connais un peu votre itinéraire, au moins de certains d'entre vous, et je me dis que celui des autres doit ressembler, quoique je me dis aussi que peut-être pas. Mais voilà, il faut, pour être dans la foi chrétienne, il faut être des vrais interlocuteurs, il faut être vraiment quelqu'un pour les uns pour les autres, il faut être vraiment quelqu'un devant Dieu, avec l'épaisseur de sa vie et avec la force de sa vie. Et notre vie, on ne la traverse pas, j'ai bien aimé l'expression du prêtre tout à l'heure, il a dit, notre vie, on ne la traverse pas comme une bûche. Dans notre vie, on est vraiment quelqu'un. Et je voudrais partager avec vous, aujourd'hui, une découverte que j'ai faite dans l'Évangile, une découverte que j'ai faite longtemps après l'avoir connue par cœur. Vous savez, à force d'écouter l'Évangile, au catéchisme, à la messe, tout ça, on connaît les textes. Hein. Moi j'ai découvert quelque chose au bout de 40 ans, d'un texte que je connaissais par cœur. C'est l'histoire du jeune homme riche. Est-ce que quelqu'un veut venir raconter devant tout le monde l'histoire dite du jeune homme riche? L'histoire du jeune homme riche. Tu veux venir la raconter? Il y en a qu'un qui lève le doigt. Tu veux venir la raconter? Viens.
Bravo.
On écoute. Le premier qui parle, il vient le remplacer. Pas mal. Comment il t'appelle? C'est pas l'histoire tellement. C'est l'histoire d'un homme qui va voir Jésus et qui lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est pas l'histoire des talents. Toi, tu voulais raconter l'histoire des talents, Jean?
Il ne les connaît pas.
Donc Jean, il connaît l'histoire des talents, mais pas le jeune homme riche. Qui connaît le jeune homme riche? Tu peux retourner à ta place, Jean. Qui connaît le jeune homme riche? On va connaître l'histoire des talents. Allez voir, connaît l'histoire du jeune homme riche.
C'est l'histoire d'un jeune homme riche qui va voir Jésus et qui lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir saint. Et Jésus lui dit qu'il faut respecter les commandements. Et il lui répond qu'il les a déjà tous suivis. Et Jésus lui répond qu'il faut, dans ces cas-là, il doit aller donner sa fortune à un pauvre et le suivre. Et là, comme il était très riche, il part en pleurant.
Sauf que ça, cette histoire que je connaissais comme Grégoire et que j'arrêtais au même endroit, c'est que l'introduction de l'Évangile, parce qu'il y a une suite. Donc cet homme, c'est un gars, il veut assurer. Il veut être quelqu'un de bien, et ça nous intéresse parce que nous aussi. Et alors, il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? C'est l'histoire que Grégoire racontait. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il répond, de fait, je les ai observés depuis ma jeunesse. Mais, en fait, il se rend compte que ça ne lui suffit pas. Alors Jésus voit qu'il insiste. Il lui dit, puisque tu insistes, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et l'autre s'en va, dit le texte, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. là-dessus, le texte n'est pas fini, en fait. Parce que s'engage une conversation entre Jésus et ses disciples qui coince un peu. Ils disent « Ouais, bah alors, qui peut être sauvé ?» Déjà, si ça ne suffit pas de respecter les commandements et s'il faut tout quitter et tout, voilà, c'est trop dur. Et Jésus en rajoute, il dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile. Bon. Donc il en rajoute, donc les disciples sont, déjà ils étaient un peu déprimés, alors là ils sont encore plus déprimés, et ils disent à Jésus carrément, ils lui disent, mais alors, qui peut être sauvé? Écoutez bien la réponse. Moi je la connaissais par cœur, hein. J'avais pas compris. La réponse de Jésus c'est, à Dieu, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous avez entendu? Alors moi j'ai écouté ce texte en me disant, d'accord, les hommes, ils ne méritent pas, mais Dieu, il peut rattraper le coup. Hein? Un peu comme si tu n'avais pas la moyenne et qu'on te disait, voilà, on te donne les deux points qui te manquent. Mais en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est possible à Dieu qui n'a pas été possible au jeune homme riche? C'est de se faire pauvre. C'est de quitter tous ses biens. Et Jésus, pour les chrétiens, c'est celui qui n'est pas resté loin et dans l'immensité de Dieu, mais c'est celui qui s'est fait pauvre au point de se faire comme un homme et voilà, de partager l'existence des hommes et aussi la mort des hommes, et non seulement la mort des hommes mais la mort sur la croix. Donc ce qui fait le salut, c'est que Dieu s'est fait pauvre. Alors je vous raconte cette histoire pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve que quand on la comprend comme ça, elle est beaucoup plus intéressante que quand on la lit un peu bêtement, là, ce que j'avais fait pendant 40 ans. Et l'autre raison, c'est pour vous dire que pour vous donner un exemple de ces rencontres de Jésus où son interlocuteur est vraiment quelqu'un devant lui. Ce jeune homme riche, là, c'est pas quelqu'un de banal. C'est quelqu'un qui veut quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a rien fait dans sa vie. C'est quelqu'un qui a respecté les commandements. Et c'est quelqu'un qui est tellement honnête qu'il sait bien que respecter les commandements, ça suffit pas. Et donc, il va trouver Jésus et il lui dit, bah voilà, moi j'ai respecté les commandements, mais je veux vraiment être sûr d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous, pour faire votre confirmation, il faut que vous soyez vraiment quelqu'un devant Dieu. Alors comment ça veut dire quoi être quelqu'un devant Dieu? Ben Dieu, c'est un mystère, hein, c'est pas l'évidence tout le temps. Donc pour être quelqu'un devant Dieu, il faut être quelqu'un les uns pour les autres. Et pour être quelqu'un les uns pour les autres, il faut se parler. Et le but de votre équipe, c'est de vous parler. Mais vous allez dire, on se parle toute la journée. Ouais, sauf que il y a des choses un peu vraies qu'on peut porter en soi-même sans se le dire. Alors il y a des choses un peu graves qu'on dit dans la confession ou je sais pas quoi. Mais il y a des choses qu'on peut partager entre chrétiens. Et il y a même des choses qui sont nécessaires à partager entre chrétiens. Souvent l'été, moi je vais visiter des camps scouts. Et j'aime beaucoup. Et je discute le coup avec vous. Et vous le savez ou vous le savez pas, mais quand je vous revois, hein, je dis un tel, c'est celui avec qui j'ai eu cette discussion-là. Il m'a dit ceci et cela. Et on a échangé dans tel sens. Mais moi, j'aimerais bien que... l'objectif, hein, c'est que en fin de confirmation, vous soyez vraiment quelqu'un les uns pour les autres. C'est-à-dire que vous puissiez dire, celui-là, voilà ce qu'il porte. Voilà un événement qui a marqué sa vie. Voilà l'évangile qu'il préfère. Vous connaissez votre évangile préféré? Eh ben, l'évangile, c'est pas fait pour être dans le livre, hein, c'est fait pour être dans le cœur. Et c'est fait pour faire vivre. Donc, l'objectif, c'est que vous soyez quelqu'un, vraiment quelqu'un les uns pour les autres. Et c'est en étant vraiment quelqu'un les uns pour les autres que vous serez vraiment quelqu'un pour Dieu. Voilà. Alors c'est vrai que vous pouvez aller voir des prêtres, mais vous pouvez aussi, et c'est même une nécessité, vous parler et être vraiment quelqu'un. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment quelqu'un, on n'est pas vraiment à l'écoute. Et les sujets sur lesquels ça vaut la peine de prendre la parole, c'est justement fragilité, joie, amitié, avenir. Fragilité, c'est quoi? C'est ces rapports au fait de grandir, d'avoir un corps qui change. C'est devoir s'affronter ou être affronté à l'événement de la mort. C'est avoir des difficultés à espérer, que sais-je. Tout ça, c'est ça qui fait notre vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie qu'on a à l'esprit, et c'est aussi la vie de l'esprit en nous. Et ça appelle une parole. Vers la fin de la préparation à la confirmation, on vous demandera d'écrire une lettre à l'évêque. L'évêque, c'est celui qui confirme. On en parlera cet après-midi. Quelquefois, l'évêque délègue des prêtres pour faire les confirmations. Moi, je fais partie des prêtres qui délèguent parce que je suis un de ses adjoints, si vous voulez. Et donc, je lis souvent des lettres de confirmant. Et quand je lis des lettres de confirmant, je me dis, mais est-ce que je vais découvrir vraiment qui c'est ici? Donc cette lettre, elle n'est pas d'actualité parce que vous l'écrirez en fin de parcours. Mais vous y écrirez trois choses. Vous pouvez le noter, ces trois choses que vous aurez à écrire et qui ont à voir avec ce que je dis depuis le début. Vous écrirez d'abord qui vous êtes. Mais écrire qui on est, ça n'a que l'apparence de la simplicité. Bien sûr, vous direz votre prénom, votre nom, vous direz peut-être votre âge, vous direz votre famille, vous direz votre ville, votre paroisse. Mais une fois que vous aurez dit tout ça, vous n'aurez quand même pas dit grand-chose, parce que l'évêque, il se doute bien que vous avez un prénom, un nom, que vous avez 14 ans, deux frères, une sœur et un labrador. Donc tout ça, l'évêque, il se doute. Mais vous vous serez vraiment présenté quand vous aurez dit une chose qui vous plaît, qui vous fait vivre, un tournant dans votre vie, une épreuve, voilà, donc le premier temps de votre lettre, c'est pour se présenter, et se présenter, ça prend du temps. Parce que pour se présenter, il faut se dire à soi-même un peu qui on est profondément. Dans le deuxième temps, vous direz quel croyant vous êtes. Parce que on vous a appris que pour être croyant, il fallait dire le credo. Il fallait dire et croire en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, tout ça. Et pourtant, même si on croit tous la même chose, on a tous une manière particulière de croire. Et c'est quoi notre manière particulière de croire? C'est un texte de l'Écriture qu'on préfère, c'est un événement de la vie de l'Église, un temps fort qu'on a aimé, par exemple, d'avoir vécu le sacrement de réconciliation de manière forte, de sorte que ça a été un tournant un jour. Être engagé dans telle ou telle activité de l'Église, que sais-je. Et à la question, si vous terminiez la phrase qui commence par « croire pour moi c'est », voilà, si vous terminiez vraiment cette phrase de sorte à vous reconnaître dans ce que vous dites, vous direz, je suis certain, vous ne diriez pas la même chose que votre voisin. Et puis, donc, quel croyant vous êtes? Et le troisième temps de votre lettre, ça sera comment vous allez vous engager dans l'Église? Comment vous allez continuer à être chrétien? Mais pas juste pour valider le truc, mais de manière dynamique. c'est quoi le lieu d'engagement que vous allez avoir et qui sera votre manière d'être chrétien. Voilà. Et cette lettre-là, elle est tout sauf facile. Déjà, c'est pas facile d'écrire une lettre, mais en plus, quand on écrit avec ces trois points-là, je pense que ça doit pas vous prendre moins de 3 heures, quoi. Pas moins de 3 heures en 2 ou 3 fois. Une fois pour voilà, rassembler des idées, la rédaction, peu importe, vous en occuperez plus tard. Une fois pour rassembler des idées, pour prier, et pour savoir si vous voulez être confirmé. Donc, deux petits exercices pour terminer. Ce premier temps de prise de parole de ma part. Je viens de vous dire que si vous terminiez la phrase qui commence par « Pour moi, croire, c'est ceci, cela », vous ne diriez pas la même chose que votre voisin. Donc, on va faire l'exercice. D'abord, vous allez prendre 3 minutes de silence pour terminer la phrase dans votre tête. Ensuite, vous trouverez 2 voisins et vous lui direz, sans débat, vous lui direz comment vous avez fini la phrase. Pour moi, croire, c'est... Donc 3 minutes de silence, et ensuite, 3 minutes pour échanger, et je vous dirai quand on commence. Pour l'instant, vous cherchez à terminer la phrase dans votre tête, et tout à l'heure, comme exercice, vous finissez la phrase. Et chacun partage aux 2 autres la fin de sa phrase. Vous pouvez les noter d'ailleurs. Vous dites le... Vous notez avec le prénom de vos 2 interlocuteurs. Ce que j'ai dit depuis le début, bien, quelque chose que vous avez pensé à cause de ce que j'ai dit et que vous n'avez pas dit. Je préférerais que vous répondiez à la 2e question d'ailleurs. Mais vous pouvez répondre à la 1re. Pour la lettre à l'évêque, il faut mettre au moins 3 heures. Son prénom ? Marie, il faut prendre le problème à l'envers.
C'est vrai. Oh, mais c'est tout le plus. Moi, je vais dire ça. C'est plus synthétique.
Pauline ?
Je vous aurais prévenu, hein, qu'ils poseraient des questions.
Comment tu t'appelles ? Thibaut. Aux hommes, rien n'est possible, mais à Dieu, tout est possible. Ton prénom ? Pierre. La messe, c'est une nécessité pour nourrir son âme. Comment tu t'appelles ? Marquette. Marc Elie, à Dieu tout est possible, ça veut dire que par la grâce de Dieu, on peut accéder à la vie éternelle. Vous avez de la chance qu'il y en a qui lèvent le doigt, sinon j'interroge au hasard. Vas-y. Ton prénom ?
Emma.
Emma.
C'est la première chose que vous avez dit, que les amis qui ne connaissent pas, ils peuvent pas dire pour sa vaccin et leur rapport avec la
première chose. La première chose que vous avez dite, à savoir que les amis qui nous connaissent bien savent là où ça fait mal et le rapport avec la foi. Comment tu t'appelles ? Non, toi. Aristide. Dis quelque chose, Aristide. Vous avez dit que la vie spirituelle, c'était ses pensées. C'est ça ? Qu'on juge digne de nos pensées. Merci.
C'est horrible.
Si on faisait une courbe de stress, je baisserais.
Max, t'as pas de chance, je te connais.
Je suis parti un peu.
Et dans la lettre à l'évêque, c'est pas se présenter en disant des choses banales, parce que l'évêque il s'en doute. Et donc, c'est quoi? C'est dire quel croyant on est. Pauline, ça avance? L'histoire de quoi? J'ai retenu l'histoire de l'homme riche. Ça passe.
Ça passe.
On s'est mis au début à côté des gens qu'on connaissait et qu'on
appréciait.
Et qu'on appréciait. Pour être, pour faire sa confirmation, il faut être quelqu'un de rendu. Donc, la morale de l'histoire, moi ce que j'ai retenu. Alors évidemment c'est plus facile parce que c'est moi qui l'ai dit, mais quand même, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est deux choses. D'abord qu'il faut prendre le problème à l'envers, à partir de ce qui compte pour vous. Et la deuxième chose, c'est que je vous invite vraiment à faire de vos lieux d'équipe un lieu de vraie parole, où les autres deviennent quelqu'un pour vous, et où vous devenez quelqu'un pour les autres.
Okay.